Bien le bonjour, bon matin, bon hiver à toutes et à tous. Hélène Bédard au micro avec mon équipe fidèle. Je suis de retour de vacances. Alors, bien contente. Nous sommes rendus à l'émission du vendredi 9 février. Et avec moi, Mathieu Tessier à la régie. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Francine Forget, madame, de quoi allez-vous nous parler?
Alors, bonjour Hélène, bon retour. Je vais terminer, ça c'est sûr, l'interminable dossier sur l'intelligence des plantes. Et je le ferai en très bonne compagnie avec vous, évidemment, et Catherine, mais aussi avec une magnifique plante que Mathieu a installée tout près de moi pour créer la bonne ambiance aujourd'hui.
Elle est magnifique en passant. Magnifique. Merci, Francine. Catherine!
Bon matin!
Bon matin.
Moi, je vais faire un tour dans la revue Voir du mois de février. Une petite chronique d'Émilie Dubreuil. Est-ce qu'on est devenu ce qu'on souhaitait devenir au secondaire? Et un petit article sur Catherine Levac, que j'aime beaucoup, qui est une artiste humoriste, comédienne, etc.
Oui.
etc.
Effectivement. Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. J'ai bien hâte que tu m'en parles. Alors voilà, nous vous revenons dans un petit moment. Pour ma part, je vais vous entretenir du qu'il y a 100 ans. Ça fait 100 ans maintenant que les femmes ont le droit de voter. Alors, je vous parle de ça au retour. Alors, nous revoici en onde. Moi, je vais vous entretenir, Hélène Bédard au micro, je vais vous entretenir d'un article, bien, en fait, de plusieurs articles que j'ai collectés. Il y a 100 ans, les femmes canadiennes votaient pour la première fois. Le 17 décembre 1917, c'était la première fois que les femmes votaient officiellement pour les élections fédérales du Canada. C'était l'idée du premier ministre Robert Borden qui voulait des votes pour appuyer sa réélection et indirectement, la circonscription. M. Borden croyait donc donner le droit de vote aux femmes qui auraient pu être en faveur de la conscription. C'était pour lui un enjeu majeur pour ces élections. Son adversaire, lui, le libéral Wilfrid Laurier, y était contre. Un des opposants notoires au droit des votes, et je le cite, Henri Bourassa, écrivait dans le journal Le Devoir, « La principale fonction de la femme est et restera, quoi que dise et quoi que fasse ou ne fasse pas les suffragettes, donc, la fonction de la femme est la maternité, la sainte et féconde maternité qui fait véritablement de la femme l'égale de l'homme. » Fin de la citation. L'une des femmes ayant exercé son droit de vote en 1917, Alice M. Lightall, était une infirmière volontaire au front. Également poète, elle a publié un recueil dont il n'existe que deux exemplaires au Canada. En voici un extrait. Alors que la guerre faisait rage, il est devenu nécessaire pour les femmes de prendre la place des hommes. Elles ont appris à conduire les ambulances, à accomplir toutes sortes de réparations mécaniques et mille et une autres tâches civiles. Tout ce travail a substantiellement changé le statut des femmes. Des droits nous ont été tacitement accordés qui nous étaient jusqu'alors refusés. C'est quelque chose dont il faut se souvenir. Certaines d'entre nous peuvent témoigner que nous avons voté pour une première fois en France et dans notre plein droit en tant que femmes en service actif. De notre travail sont nés quelques éléments de votre liberté. Nous avons emprunté ce chemin avant et nous connaissons nos repères. Nous savons toutefois aussi que la même flamme qui a éclairé notre route sera là pour éclairer la vôtre. C'est l'année suivante, en 1918, que le droit de vote à l'échelle fédérale sera formellement accordée aux femmes blanches et noires, ces dernières ayant été explicitement écartées par le gouvernement. Les Autochtones et Asiatiques n'obtiendront le droit de vote au Canada que bien des années plus tard. En 1916, qui a d'abord été la première province à accorder le droit de vote aux femmes? Ça a été le Manitoba. En 1916, c'est à ce moment-là que les femmes ont pu voter pour la première fois, suivi de la Saskatchewan et ensuite l'Alberta entre 1916 et 1919. Par contre, le Québec tarde à accorder son droit de vote provincial aux femmes. Ce n'est qu'en 1940 que ce vote est enfin accordé. Beaucoup de groupes ont milité, comme la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, l'Alliance canadienne pour le vote des femmes, fondée par Idola Saint-Jean. Un autre groupe qui était présidé par Thérèse Casgrain ont finalement réussi à gagner le droit de vote de 1940. Le Canada a compté parmi les premiers pays à accorder le droit de vote des femmes et les suffragettes ont milité, mais sans effusion de sang. Le Canada s'est comporté de manière très civilisée. Pourtant, c'est le contraire qui s'est produit au même temps au Royaume-Uni. Les suffragettes britanniques ont posé des gestes d'éclat pour se faire entendre. Elles ont eu recours à la guérilla urbaine et à des actes de violence, allant même jusqu'à poser des bombes, raconte l'historienne Denise Baillargeon. Elles ont fait la grève de la faim. Une dame, Emily Davidson, s'est même jetée sous les sabots du cheval du roi. Et évidemment, elle en est morte par la suite. Vraiment, tout un mythe part d'événements très, très réels. Elles ont dû faire preuve de patience, car les femmes d'Angleterre ont obtenu le droit de vote 20 ans après les Canadiennes, c'est-à-dire en 1928. Les Autochtones. Il faut ajouter les Autochtones à la liste des sans-voix. Il faut attendre 50 ans pour les Autochtones avant que les choses changent. Dans l'histoire du vote au Canada, Élections Canada explique que pour assurer la souveraineté canadienne sur les territoires du Grand Nord, on y a établi des collectivités dont les individus figureront sur une liste électorale. En conséquence, les Inuits, qui habitent le territoire, sont enfin les premiers Autochtones à regagner le droit de vote. Nous sommes en 1950. Puis en 1960, le gouvernement de Diefenbaker octroie le droit de vote à l'ensemble de la population autochtone, et ce, presque à l'unanimité des membres du Parlement. Les 100 ans du droit de vote des femmes en Ontario. 2017 a marqué le 100e anniversaire, mais quand on consulte les archives de l'époque, on constate en Ontario que le Sudbury Star n'a fait aucune mention de ce moment historique dans les pages de son journal en 1917. La seule mention du premier vote des femmes dans ce journal était dissimulée dans un article sur le taux de participation d'un bureau de scrutin où il y avait 706 personnes qui ont voté, dont 175 femmes. C'est la seule façon qu'ils ont eu de traiter la nouvelle. Par contre, en 2018, alors on revient à notre époque, la Banque du Canada émettra un billet mettant en vedette une femme éminente de l'histoire du Canada. Ce sera la première fois qu'une femme autre que la reine apparaîtra sur une coupure de billet. Plus de 460 candidatures ont maintenant été étudiées par un comité consultatif qui a déposé ses recommandations à l'été dernier. Alors, selon vous, qui de la suffragette à la députée, en passant par la citoyenne qui siège au conseil d'administration, mériterait un tel honneur? Plusieurs questions ont été posées à des leaders. Pour l'historienne Denise Baillargeon, elle cite Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean. Est-elle Blondin Andrew? Mais, qui sait, le vote n'étant pas encore terminé, nous allons donc suivre cette nomination très bientôt. C'était un article que j'ai puisé à plusieurs sources, mais la principale vient de Radio-Canada et c'était de Hugo Lavoie. Après ce charmant intermède musical, je vais céder la parole à Francine. Nous vous écoutons, Francine.
Merci, Hélène. Conclusion en deux parties du dossier paru dans Science et Vie à la fin de 2017, sous la plume de Jean-Baptiste Verreras, L'intelligence des plantes. Vers un nouveau lien avec le monde végétal? Que les plantes démontrent de véritables capacités cognitives met l'homme au défi de sceller une nouvelle alliance avec elle, à condition de percer le mode de pensée du monde végétal. Or, celui-ci est plus proche d'une intelligence extraterrestre. Et si c'était le début d'une nouvelle alliance? Maintenant que l'on sait qu'elles ont de la mémoire, qu'elles apprennent, qu'elles prennent des décisions, qu'elles partagent avec nous ces fonctions cognitives fondamentales, ne peut-on pas espérer renouveler la relation que nous entretenons avec les plantes? Il serait temps. Elles étaient là bien avant nous, pionnières sous l'eau. Elles en sont sorties il y a environ 500 millions d'années, soit presque 100 millions d'années avant le premier animal terrestre, et pèsent aujourd'hui 99 % de la biomasse terrestre. Et pourtant, c'est comme si on avait jusqu'ici refusé le contact, sauf utilitaire, que ce soit pour les cultiver, les manger, les exploiter. Pourtant, entre gens intelligents, on devrait se comprendre. Et les découvertes de la cognition végétale de ces dernières années invitent à réinventer l'agronomie en décryptant les pensées du blé, du riz et du maïs, à repenser la gestion des forêts en écoutant les grands arbres, voire à renouveler le jardinage en discutant avec la tulipe des conditions de son plein épanouissement. En un mot, à refonder notre lien avec le monde végétal. Pour l'heure, ces découvertes sont trop récentes pour que de telles alliances commencent à se formaliser. Mais tous les chercheurs impliqués dans le domaine y pensent. Et tous préviennent. S'il fait rêver, le dialogue avec les plantes ne sera pas facile. À vrai dire, il serait plus pertinent de les considérer comme de véritables extraterrestres qui ont peuplé cette planète bien avant nous, s'amuse Francis Halley, explorateur infatigable du règne végétal. Car si les concepts de prise de décision, de mémoire et d'apprentissage nous sont familiers, ils ne doivent pas masquer l'essentiel. La pensée des plantes est fondamentalement différente de la nôtre et sûrement beaucoup plus surprenante que ce que les mots que nous utilisons pour en parler laissent imaginer. Il est encore difficile de regarder les plantes pour ce qu'elles sont. Il faut accepter l'altérité, éviter de tourner en rond dans nos propres cases, estime le botaniste Jacques Tassin. Dans son livre « À quoi pensent les plantes ?», ce chercheur au CIRAD de Montpellier pointe une des sources fondamentales de la différence entre nos deux cognitions. Dans les plantes, l'unitaire et le communautaire coexistent. Le botaniste britannique Anthony Trevevas compare ainsi un arbre à une fourmilière. À l'image de l'organisation sociale du travail chez les fourmis, un arbre possède une organisation collective où chaque groupe réalise une fonction spécifique. Le méristème, tissu cellulaire à la pointe des tiges et des racines, est semblable à la reine qui produit les nouvelles cellules et contrôle la croissance de la colonie. Puis, chacune de ces cellules se spécialise. Celle des branches stocke l'amidon pour affronter l'hiver. Celle des feuilles s'apparente à des ouvrières récoltant la lumière, tout comme celle des racines qui cherchent le plus court chemin vers l'eau et les minéraux. Rien de commun avec notre intelligence centralisée. Leur intelligence est collective. Les plantes n'ont pas de cerveau. Elles sont leur propre cerveau. Peut-être les choses deviennent-elles plus compréhensibles si, plutôt que de dire qu'une plante pousse, on dit qu'elle fourmille une intelligence. Notre pensée, forgée dans le creuset d'une intelligence individuelle, a forcément du mal à suivre l'analogie. Si les végétaux s'apparentent plus à une colonie qu'à un individu, leur pensée devient une invraisemblable communauté de dialogue, un débat incessant entre les cellules. Cette analogie nous aide à mieux comprendre l'émergence de comportements intelligents chez les plantes, avance Monica Gagliano, biologiste à l'Université d'Australie occidentale. Car les scientifiques ont beaucoup étudié l'organisation des fourmilières, mais aussi celle des vols des tourneaux ou des bancs de poissons. Ils parlent des systèmes complexes auto-organisés ou, plus prosaïquement, d'intelligence des essaims. Un processus auto-organisé est un processus qui émerge d'un collectif d'individus sans qu'aucun d'eux ne soit capable de réaliser par lui-même ce processus, explique Guy Terolaz, professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse et spécialiste de l'intelligence des essaims. Et à partir d'un certain niveau de complexité, d'organisation, il peut émerger des comportements intelligents, comme la découverte par les fourmis du chemin le plus court vers une source de nourriture. À l'image des cellules des racines ou des branches qui partent en chasse d'eau ou de lumière. Les plantes disposent d'une sorte de système nerveux interne complexe. Ce vaste réseau d'échanges d'informations permet à l'ensemble des cellules de communiquer et de coordonner leurs activités. Alors, la suite, un peu plus tard au cours de l'émission, de la conclusion de ce dossier sur les plantes paru dans Science et Vie.
Ralentir l'allure, tu prends la mesure, tu tournes les coins ronds, tu passes droit. Ralentir l'usure, à quoi tu
la chanson « Fleurs » chantée par Saratoga.
Oui, nous sommes de retour à cette charmante mélodie. Catherine.
Oui, donc cette semaine, je fais un petit tour dans la revue Voir qui sort à tous les mois ici dans la région de Montréal. Et je vais commencer par vous parler de Catherine Levac, qui a été connue d'abord pour elle a gagné la révélation de l'année. L'an dernier au Gala des Oliviers. C'est une humoriste qui vient du franco-ontarien, qui est franco-ontarienne, qui vient du côté francophone de l'Ontario.
Ben, tiens donc.
Comme moi, tiens donc.
Oh, ben, tiens donc.
Alors, voilà
bien,
ça.
Du bien bon monde.
Du bien bon monde. Parfois, on bafouille un peu notre français, mais sinon, tout va bien. C'est un article de Olivier Boisvert-Magnène. Décidément, la Montréalaise d'adoption a le vent dans les voiles. Il y a quelques semaines, alors qu'il était toujours en rodage, Velours dépassait le seuil des 50 000 billets vendus et la plupart de ses premières représentations affichaient déjà complet. Pour une humoriste encore immergée dans ce bassin de plus en plus dense et compétitif qu'est la relève, cet engouement tient de l'exploit. C'est cool, mais je me rends peut-être pas compte que c'est nice. Depuis mes débuts, je joue devant des salles pleines, sans nécessairement réaliser ce qui m'arrive. C'est Catherine Levac qui disait ça. Pour en arriver là, Levac a bien saisi les opportunités qui se sont présentées à elle. Entre sa sortie de l'École nationale de l'humour en 2013 et la première de Velours à la Place des Arts en février 2018, elle a su s'imposer dans le très fertile circuit des soirées d'humour hebdomadaires de la métropole, puis s'est fait remarquer à Zoo Fest et en première partie de Jean-François Mercier. Raflant la première place du très populaire concours En route vers mon premier gala Juste pour rire en 2014 et la statuette de la découverte de l'année aux Oliviers l'année suivante, Elle a largement grandi son public en accumulant les projets à la télévision, notamment SNL Québec, Like Moi, Papa Ragile et Les 5 prochains. L'artiste à l'agenda surchargé a dû prendre du recul nécessaire pour élaborer un spectacle complet. Là, j'ai pris le temps d'écrire. C'est devenu ma priorité. Je suis partie en Gaspésie cet été avec le plan de juste faire ça, écrire, roder, réécrire, roder. Pour vrai, c'est vraiment un luxe d'écrire. En télé, le temps manque tout le temps et là, pour la première fois, je décide de ce que je veux. C'est une liberté à laquelle j'avais encore jamais goûté à ce jour. Guidée par son script éditeur David Bocage, son ex-copain et très bon ami qui assure maintenant ses premières parties, Levac livre des textes personnels qui revisitent son enfance aisée, proclamant des origines franco-ontariennes et mettant en lumière les contradictions d'une génération de femmes qui cultivent de fortes ambitions. Comme d'habitude, l'humoriste peint sans rire, joue avec les contrastes. J'ai une voix douce et j'ai l'air d'un ange, mais quand je parle, ça rentre plus fort qu'on pensait, résume-t-elle, évoquant la main de fer dans le gant de velours. Bref, l'humoriste se livre ici sans artifice, délaissant le format du sketch qu'elle a souvent soutenu à la télévision. Son alter ego Paige Beaulieu, une caricature franco-ontarienne qu'elle a incarnée dans SNL Québec, sert ici de prétexte pour parler d'un enjeu social plus vaste. Je parle de la naissance du personnage, du statement de ce qu'elle représente. Les origines sont clairement francophones, mais elle s'appelle Paige. Ça évoque pas beaucoup de choses au Québec, mais en Ontario, ils comprennent parfaitement ce que je fais. Ça me permet de parler de la situation du français là-bas, qui souvent ne tient qu'à un fil. Québécoise depuis 2011, année où elle a quitté son village de Saint-Bernardin pour venir étudier à Montréal, Levac aime comparer les deux cultures et surtout constater les réactions divergentes de son public d'une province à l'autre. C'est drôle parce que les gens rient, mais pas aux mêmes endroits, observe-t-elle. Par exemple, quand je parle de l'impact de la religion sur mon enfance, du camp pastoral, des prières et des Hauts Canada obligatoires à mon école, les gens au Québec rient de l'absurdité de la situation, alors qu'en Ontario, ça rit jaune. Tu peux pas aller trop loin dans les jokes de religion, car il y a encore bien du monde qui font leur première communion. C'est ce genre de rire weird-là que j'aime. Par-dessus tout, l'artiste de 27 ans aime les sensations de contrôle que lui procure ce premier spectacle. C'est vraiment satisfaisant de savoir qu'à n'importe quel moment, tu as le pouvoir de changer le mood d'une salle. Lancer la balle avec le public comme ça, ça me rend heureuse. Intouchable sur scène, Catherine Levac a récemment compris qu'elle n'avait pas la même emprise sur sa vie publique. À l'été 2016, sa flagrante perte de poids a fait les choux gras de la presse québécoise et a provoqué un débat sur les réseaux sociaux, auquel tout le monde semblait vouloir participer, sauf elle. À écouter tout le monde, c'était rendu que je prenais du cristal meth et que j'avais la leucémie. Tout est rentré dans l'ordre quand j'ai dit que j'étais correcte, que ça allait bien. Mais c'est sûr que j'ai gardé ça tabou trop longtemps, reconnaît l'humoriste qui a attendu son passage à Tout le monde en parle en avril 2017 pour s'expliquer sur la situation. Moi, je sais pas c'est quoi être une personnalité connue. Chaque fois que je fais quelque chose, j'apprends comment dealer avec. N'importe qui commence un travail ou une vie adulte vit la même chose et finit par faire les changements qui s'imposent. Alors voilà, c'était un court aperçu de ce nouveau spectacle qui s'appelle Velours 2. Catherine Levac et s'est présentée au Théâtre Maisonneuve le 6 et 7 février, 22-23 février au Théâtre Desjardins, en avril à l'Olympia et peut-être si vous êtes un peu plus loin à la salle Pauline Julien en septembre et en octobre à l'Olympia encore. Voilà.
Nous sommes de retour en onde et je vais vous entretenir rapidement d'un texte que je suis tombée là-dessus récemment. Il y avait deux questions. C'était, est-ce qu'on peut contrôler sa colère et où est-ce qu'on peut la vivre, cette colère? Alors, il y avait des petits cues, des bouts de solutions. Je vais vous les lire. Je trouve ça intéressant. D'abord et avant tout, dans le texte, on suggérait de chercher la source de la colère. C'est une bonne idée, évidemment. Qu'est-ce qui nous met en colère? Et d'apprendre à dire ce qu'on ressent au fur et à mesure. Donc, d'évacuer, mais sans s'exploser. Là. Juste l'évacuer et dire au fil des moments. Et dans la mesure du possible, éviter les gens, les endroits, les situations qui nous mettent en colère, si on est capable de les identifier, évidemment. Peut-être qu'il est temps de changer certaines choses. Relaxez-vous, ça c'est partout, c'est revenu dans le texte de façon très constante. Relaxez-vous au quotidien, pas d'attendre les vacances pour se relaxer. Un petit peu tous les jours si c'est possible, comme ma collègue le fait actuellement à côté de moi. Pratiquez une activité physique, voilà. Ah, ça c'est le nœud de quelque chose, ça c'est... Ça aide, on se calme rapidement quand on se dépense et qu'on sue à grosses gouttes. Dormir suffisamment, le manque de sommeil nous provoque dans la capacité à gérer correctement ses émotions. Ça, c'est flagrant, c'est pour tout le monde, ça. Puis j'ai lu aussi quelque chose d'intéressant, c'était pratiquer l'autosuggestion. Alors, se construire, peut-être vous pouvez le trouver dans des livres, mais... Vous-même, vous pouvez vous construire des phrases positives, formulées au présent et qui s'adressent à vous. Répétez-vous-les régulièrement. C'est peut-être la solution à bien des mots. Et acceptez l'idée que ce sentiment est humain aussi. Non. Et qu'il n'est pas obligatoire de répondre à toutes les solutions immédiatement. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps. Prenez donc du temps un peu. Alors voilà, nous allons faire une petite pause. Nous vous revenons, ne quittez pas, hein? Restez avec nous. Nous vous revenons après cette intermède. Merci.
Langes her war noch klein, durch die Welt nie allein. Denkt so gern an die Zeit, spielt als Kind so befreit. Eingeschult Seligkeit, grenzenlos, nichts zu weit. Liebte es, Kind zu sein. Lebte, liebte und lachte, kein einziger böser Schein. Nein, oh nein. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Auf dem Weg zum Großsein. In die Welt weit hinaus, sich auf Weltreisen aus Heimat, Geborgenheit. Elternhaus, keine Pein, beschützt und glücklich zu sein, so fühlt ich diese Zeit. Doch nur die Zeit, sie verrinnt, nichts bleibt für immer, mein Kind, nein, 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 nein. Na, 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 na. Und die Zeit fliegt nur so vorbei, halt sie fest, nur mein Herz trägt mich weit. Bleib bei mir, dein Lächeln, dein Kuss. Nichts, das bleibt, wie es ist. Na, 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 na. Nun wird's Zeit, groß zu sein. Bin auf dem Weg, auf der Reise bis in die Unendlichkeit. Na, 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 na. Bleibt nichts als Dankbarkeit. Für eine wertvolle Zeit liebe den Menschen, egal wie weit. Na, 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 na.
Il s'appelle Maximilien Kruger et la chanson est, s'appelle Und die Zeit fliegt nur zu vorbei.
Oh, quel accent, mon ami! Wow! Alors, nous sommes de retour après cette pause et je vais immédiatement céder le micro à Francine.
Merci beaucoup. Alors, c'est la fin, la vraie fin, là, cette fois-ci, du dossier sur les plantes. Alors, je suis en compagnie de Catherine, d'Hélène, de Mathieu, évidemment, et d'Huguette. Alors, Huguette, c'est la plante dont je vous parlais tantôt. Un magnifique bois sur lequel on retrouve de très, très belles tiges. Malheureusement, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'appelle Huguette. Alors, je ne peux pas vous dire de quelle sorte de plante dont on parle. Alors donc, je continue le dossier. Alors, les chiffres chez les plantes donnent le vertige. Si des milliers d'insectes suffisent à former une colonie, l'arabette des dames, dont on a parlé tout au long de ce dossier, de la famille de la moutarde, je vous le rappelle, cette star des laboratoires possède des centaines, voire des milliers de milliards de cellules. Or, ce n'est qu'une petite chose comparée aux chênes majestueux, aux séquoias gigantesques. Et à l'inverse de notre cerveau, dont les 100 milliards de neurones déclinent avec l'âge, plus une plante avance en âge, plus elle accroît son nombre de cellules. À ce compte, parvenir à instaurer un dialogue avec une intelligence dont le secret est de se trouver à la fois partout et nulle part, s'annonce compliqué. Par quel bout prendre cette pensée fourmilière? Quel serait le point de contact? Maintenant qu'ils ont réussi à établir un schéma global, les spécialistes de la cognition végétale invitent à y regarder de plus près, à commencer par ces 6 singulières cellules végétales. Elles sont dotées d'une myriade de sentinelles moléculaires capables de sentir de façon très fine l'environnement, comme les variations de température, les pressions mécaniques, la quantité et la qualité de la lumière. Et ces dernières années, des biologistes moléculaires, dont Anthony Trevavas, ont démontré que les ions calcium, messager décisif au sein de nos neurones, jouait un rôle tout aussi important chez les plantes. Au moindre signal perçu, des vagues d'ions calcium envahissent le cytoplasme. L'amplitude et la fréquence de ces vagues renseignent sur la nature du signal et sur son intensité, explique le botaniste Michel Tellier, membre de l'Académie des sciences, qui a fait de ces messagers la clé de voûte de son modèle sur le stockage et le rappel de la mémoire des cellules végétales. Chaque cellule est ainsi constituée de réseaux moléculaires complexes et dynamiques qui lui permettent de recevoir des informations de l'extérieur, de les interpréter et d'activer des réponses associées en coordination avec ses voisines. Et telles de petites fourmis vertes, toutes participent de concert à l'émergence d'une pensée collective. Car c'est à l'échelle supérieure que la cognition végétale apparaît. C'est avant tout la qualité et le nombre des interactions entre individus ou au sein d'un système auto-organisé qui permet l'émergence sublimant les capacités individuelles, souligne Guy Thérolas. Or, comme le souligne le botaniste Jacques Tassin, les cellules végétales sont hautement connectées. L'étude de la signalisation longue distance au sein des plantes est en plein boom depuis ces dernières années. Ça bouillonne de toutes parts, assure François Bouteau, qui étudie l'écophysiologie végétale à l'Université Paris-Diderot. Longtemps, les cellules mortes du xylème, composées de tissus conducteurs de l'eau, ont été considérées comme une simple tuyauterie qui achemine l'eau et les minéraux des racines vers les usines photosynthétiques des feuilles. Cette structure est aujourd'hui vue comme un diffuseur de messages chimiques informant la partie aérienne de l'activité racinaire. À travers des variations de pression hydraulique, elles permettent ensuite de renseigner les cellules sur le fait du vent. L'équipe de Bruno Moulia, à l'INRA de Clermont-Ferrand, a démontré l'importance de cette voie de signalisation dans la perception des contraintes mécaniques chez le peuplier. En sens inverse, le phloème, qui fait passer la sève des feuilles vers les racines, emporte aussi de nombreux messages moléculaires. Mieux, à l'image des axones de nos neurones, il peut aussi propager des signaux électriques, tel un véritable nerf végétal. C'est certes environ 1000 fois moins rapide que l'influx nerveux entre nos neurones, mais faut-il le rappeler, le temps de la plante n'a pas le temps humain. Et comme si cela ne suffisait pas, cette incroyable colonie de cellules est également capable d'utiliser la voie aérienne en cas d'urgence. C'est par ce moyen que la feuille d'acacia prévient ses consœurs qu'elle se fait manger, leur laissant le temps de devenir indigestes en sécrétant des tanins. En définitive, ce vaste réseau cellulaire ultra-connecté, traversé de signaux hydrauliques, électriques ou chimiques, n'a rien à envier en termes de complexité aux réseaux neuronaux des animaux, hommes compris, ni a fortiori aux colonies d'insectes. Pour espérer établir la communication, c'est dans cette complexité que la biologie végétale doit plonger. Ici, la biologie doit devenir une science des interactions, plutôt qu'une science des éléments pris séparément, avance Guy Thérolas. Les découvertes des mécanismes de la mémoire du froid et de la prise de décision chez la rabette illustrent la puissance de ce nouveau paradigme. Des facultés extrêmement fines et sensibles émergent à partir de règles simples à l'échelle des cellules. Et nous sommes loin d'avoir découvert toutes les possibilités qu'offre cette auto-organisation remarquable, souligne dans un sourire Anthony Trivavas. Notre dialogue avec ces êtres qui semblent venus d'ailleurs ne fait que commencer. Les moyens de communication restent encore à inventer. Mais c'est bien à une véritable rencontre du troisième type, qu'il faut se préparer. Alors la fin du grand dossier sur l'intelligence des plantes dans Science et Vie, paru en décembre 2017.
Ah, merci beaucoup, Francine, de nous avoir introduit avec autant de plaisir à la connaissance des plantes. Merci beaucoup.
Avec Huguette, n'oubliez pas.
Ah oui, bon.
Hein? Huguette qui contribue certainement à la relaxation dont vous parliez tantôt.
Fort probablement. Je vais vous entretenir d'un texte du Devoir, un texte de Marie-Claude Goulet. Et je vais vous parler d'une femme, qui est partie. Elle s'appelle Abby Lipman. Les mouvements pour la justice sociale perdent en Abby Lipman une militante irremplaçable, décrite par plusieurs comme une force de la nature. Lui rendre hommage est un exercice périlleux. L'ampleur de ses engagements et de son rôle marquant auprès des différentes communautés font qu'il est impossible de rendre justice à ses réalisations et de décrire l'immensité du vide qu'elle laisse dans son absence. Née à Brooklyn, Abby a fait son baccalauréat en littérature comparative à l'Université Cornell et s'implique beaucoup dans les mouvements syndicaux et féministes. Elle s'installe ensuite à Montréal et obtient un doctorat en génétique humaine à McGill, où elle devient professeure au département d'épidémiologie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle mène des études sur les technologies médicales dans une perspective féministe, s'intéressant d'abord aux dérives de la médecine dans un système capitaliste. L'un de ses plus récents sujets de recherche porte sur la campagne de vaccination contre le VPH, dont elle se veut critique, étant donné l'absence de données probantes à long terme, notamment sur les effets indésirables encourus par les jeunes femmes. Elle met aussi en lumière les liens sournois entre le financement pharmaceutique et la recherche universitaire, ainsi que le rôle néfaste des lobbyistes sur les politiques de santé provinciales et fédérales. Abby développe le concept de néo-médicalisation pour décrire le processus par lequel on assiste à la création et à la commercialisation des maladies dans le but de vendre des médicaments, de même qu'au repérage de situations naturelles comme cause potentielle de maladies futures. Dans un texte récent publié dans les Nouveaux Cahiers du socialisme, elle affirme avec grande lucidité que la néo-médicalisation masque le fait que la dérégulation, la privatisation et le capitalisme incarnent les vrais risques pour la santé et que c'est à quoi il faut s'attaquer en priorité afin d'améliorer la santé globale de chacun et de chacune. Elle revendique de transformer les déterminants structurels de la santé, système social, politique et économique, qui crée des iniquités, dans l'optique, évidemment, d'atteindre une justice sociale par une action collective. Beaucoup d'hommages dans les médias et les réseaux sociaux évoquent le travail d'Abby comme professeure et chercheuse. Son analyse critique, rigoureuse et assidue va certainement manquer au monde universitaire. En 2012, lorsque le journal Ababar l'approche et lui demande d'écrire sur une femme inspirante, elle accepte d'y participer, mais fidèle à elle-même. Elle refuse de nommer une seule femme. Son magnifique texte, intitulé « Une voix plurielle à la première personne », se termine ainsi. « Je m'abstiendrai de retenir une seule voix, un seul fil, une seule femme exceptionnelle qui serait mon inspiration. Ce sont toutes ces femmes, leur humanité, leur colère, leur militantisme, leur persistance, leur sens de l'humour, qui font ce cœur exceptionnel qui ne cesse de m'inspirer. » Cette phrase résume bien la façon d'être d'Abby, incroyablement dévouée aux luttes pour la justice sociale et tout à la fois dotée d'une immense humilité, au-delà de ses réalisations innombrables et de la marque qu'elle laisse sur les générations de militantes, c'est à son humanité et à son authenticité qu'il est plus difficile de rendre hommage. Ce sont les moments passés dans son salon à discuter, sa porte étant toujours ouverte, son empathie, sa grande générosité envers les gens de partout et de nulle part, sa curiosité, sa créativité jamais éteinte par les années de lutte, son amour des autres, son espoir inébranlable qui vont nous manquer le plus cruellement. Elle est décédée le 26 décembre dernier à Montréal, à l'âge de 78 ans, et un tout petit poème ici, très beau. Mon ami, pourquoi es-tu demeuré ainsi, avec une chandelle allumée pendant tout ce temps sous la pluie? Pourquoi? Pour montrer, je suppose, qu'une chandelle peut continuer à briller. Nous allons poursuivre avec Catherine.
Merci Hélène. Donc je continue avec une chronique de la revue Voir de Montréal. C'est une chronique par Émilie Dubreuil. Elle fait toujours une chronique à chaque mois qui s'appelle « Sale temps pour sortir ». Et ce mois-ci, son article s'intitule « Deviens-tu ce que t'as voulu ?»« Deviens-tu ce que t'as voulu ? » ?»« T'as-tu fait ce que t'aurais dû pu ?»« T'aurais pu, pardon. » T'as-tu fait ce que t'avais pu? As-tu fait ce qui aurait fallu? Dans la cuisine, je prends un café en écoutant un vieil album de Daniel Boucher Et cette toune en particulier à répétition songeuse. Deviens-tu ce que t'as voulu? Cet après-midi, j'ai pris une longue marche au hasard des rues. Besoin de prendre de l'air, de fermer le cellulaire, la télé, la radio, de mettre une sourdine sur le bruit incessant que fait la vie qui passe et de flâner sans but précis dans l'hiver gris et mélancolique. Je me suis retrouvée presque par hasard sur le terrain du couvent où j'ai fait mes études secondaires. L'alma mater est sans doute le lieu de refuge que cherchait mon inconscient. Derrière le bâtiment de pierre grise que les religieuses qui ont fait mon éducation ont fait construire au début du 20e siècle, j'ai regardé la fenêtre du 5e, celle par laquelle je regardais le Mont-Royal en rêvant de mon existence future à 17 ans. Je me suis demandé, en fixant cette fenêtre au volet de bois, si cette jeune fille distraite, turbulente et trop curieuse au goût de bien des enseignantes serait heureuse de voir ce qu'elle est devenue. Je crois bien que oui, quand même. Surtout que mes rêves étaient un peu flous à l'époque. J'aimais déjà lire, écrire, communiquer. J'étais rédactrice en chef du journal étudiant. Je remettais tout le monde et toutes les décisions de la direction de l'école en question. Bref, j'avais pas mal d'indices sur mes intérêts, sur ce que je pourrais être, sur ce que pourrait être ma profession, mais pas d'idées hyper précises. Je suis toujours fascinée par les gens qui me disent qu'ils savaient tout petit ce qu'ils voulaient devenir. Pourquoi t'es devenu comédien, Nicolas? Nicolas, que sa profession gruge d'angoisse et d'insécurité et qui songe depuis qu'il est sorti du conservatoire il y a 15 ans à faire autre chose tellement ce choix de carrière le mine, ne sait répondre à cette question. Du plus loin que je me souvienne, j'ai voulu être comédien. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est ce que je voulais faire quand j'étais petit. Oui, j'ai compris, mais pourquoi? Coudon, es-tu en train de conduire une entrevue, ma chère? Oui, on devient journaliste parce que l'on veut tout temps comprendre. Il y a un truc qui me chicote avec les comédiens. Ils sont à la télé, à la radio, à propos de tout et de rien. On leur fait faire des recettes, on leur demande de nous raconter leur vie, leur expérience. On fait de longues entrevues, de courtes entrevues. On les invite à des jeux questionnaires. Bref, après les déboires du CH, les excès de notre météo capricieuse, la vie et l'œuvre de quelques visages connus occupent un espace médiatique qui me fascine par sa démesure étalée comme une confiture toute sucrée et jolie. Parlez-moi de votre rôle dans telle ou telle télésérie, de votre rapport à tel personnage, à tel metteur en scène. Préférez-vous le théâtre ou la télévision? Le cinéma? Toutes ces questions clichés, rabâchées mille fois et qui font sans doute que beaucoup de petites filles ou de petits garçons se disent « Moi, je serai cette personne à qui on posera ces questions. » Pourquoi voulais-tu devenir comédien, Nicolas? Ah, tu m'énerves, journaliste. J'ai honte de le dire. Je voulais la gloire, les applaudissements, tout cela. Et j'aime jouer. J'aime les regards braqués sur moi dans le noir quand je suis dans la lumière. J'aime sortir de moi-même, vivre des émotions que je ne vivrai pas dans la réalité. Et donc, tu n'es pas vraiment devenu ce que tu as voulu. Tu fais du théâtre underground, de la mise en scène, des voix pour des publicités. Pourquoi tu ne fais pas autre chose? Tu ne peux pas être un peu déçu? Parce que voilà ce qu'aucune entrevue dans l'immense espace consacré aux comédiens ne dit. C'est que la plupart de ceux que je croise depuis des années ne sont pas devenus ce qu'ils ont voulu. Au mieux, ils sont devenus ce qu'ils ont pu. Et ils sont le plus souvent déçus. Même ceux que vous connaissez, que vous voyez dans les téléromans et dans les magazines dont vous idéalisez les vies, ont eu des passages à vide, plus de contrats, plus de lumière, dans le noir et dans le rouge. Il y a ceux qui ont connu une certaine gloire et qui ont vu des contrats payants pendant de longues années qui se retrouvent devant le vertige du plus rien. Je pense à une actrice que je croise parfois dans mon quartier. Elle a été la vedette d'un téléroman super populaire. Invitée dans les quiz, à la radio, à la télé pour parler de son rapport au théâtre, à son personnage, à sa recette de bouillie aux légumes. Aujourd'hui, elle est massothérapeute et c'est pas facile parce que même si elle a fait son deuil de son rêve de petite fille, tout le monde l'identifie encore à ce moment où elle est sortie du lot du monde ordinaire pour devenir une vedette. Dans ma classe en secondaire 5, nous devions faire un exposé oral sur ce que nous voulions devenir. Il fallait choisir un métier. Une fille dans ma classe voulait marier un homme puissant et riche. Elle a réussi au-delà de toute attente. Je ne voulais Je ne vous dirai pas c'est qui, mais je souris chaque fois que je la vois à la télévision. Mais bon, elle a eu un zéro dans l'exercice. Madame M, qui était notre enseignante de choix de carrière, lui a dit que ce n'était pas un métier être la femme de quelqu'un. Les premières de classe voulaient devenir médecins. Elles le sont toutes aujourd'hui. Celle qui était bonne en mathématiques est devenue comptable. Ma dentiste était aussi dans ma classe. Je ne me souviens plus de ce qu'elle voulait devenir, elle. Moi, j'avais choisi le métier de poète. Madame M a écouté mon exposé dans un état de perplexité qui me faisait très plaisir et m'a demandé si je croyais vraiment qu'être poète était un métier. Je me souviens de lui avoir dit que ce métier-là était un service essentiel. Je n'ai jamais vraiment voulu être poète, mais je voulais provoquer celle qui donnait ce cours voué à notre futur utilisé économique. J'ai eu une bonne note. Celle qui voulait être comédienne s'est suicidée après avoir été serveuse dans un café pendant les 10 ans qui ont suivi sa sortie de l'école de théâtre où on lui avait, pourtant, promis un avenir radieux à la hauteur de son talent. Certains rêves d'enfants sont plus lourds à porter que d'autres. Et voilà, et vous, deviens-tu ce que t'as voulu?
Quel exercice! Francine, vous voulez nous parler de gadgets?
Oui, au cours des 2 dernières semaines, Hélène, on a parlé de gadgets qui peuvent changer la vie ou pas, utiles ou inutiles, ça dépend des points de vue. Ce sont des gadgets dont on a parlé au Consumer Electronics Show à Las Vegas en début d'année. Alors, je vous en donne un au moins, bien plus qu'un rangement de bouteilles. Au CSI, on a parlé d'un distributeur cellier qui a de multiples fonctions. Il suffit de prendre une photo de chaque bouteille de vin déposée dans ce cellier intelligent, KVZ qu'il s'appelle, pour que celui-ci offre une panoplie de fonctions. En plus de la gestion de l'humidité et de la température, le cellier à connexion Bluetooth mémorise l'endroit où les bouteilles ont été placées et fait un inventaire constant de son contenu. À l'aide de sa base de données, l'application fournit des renseignements sur les bouteilles choisies. Et elle peut notamment proposer des accords mets-vins avec les bouteilles disponibles, ainsi que conseiller de futurs achats en analysant les goûts et préférences de son utilisateur. Alors, c'est le cellier KVZ qui devrait être offert en juin 2018 à partir de 237 $.
Et ce gadget est disponible par Internet, sans doute?
Ah, on le sait pas, j'imagine, mais il y a certains de ces gadgets qui vont être disponibles ici, mais on aura plus d'informations en juin.
Bien, merci beaucoup! Et Catherine, vous allez nous amener où?
Quelques suggestions pour ce mois-ci, parce qu'à la fin de la revue Voir, on a toujours la section « Quoi faire ». Au niveau de la musique, j'ai sélectionné une proposition pour le 16 février, donc c'est très bientôt. C'est à la Maison de la culture Maisonneuve. C'est Laura Babin et Mon doux seigneur qui sont en spectacle, incarnés par le désinvolte, mais très sympathique, Émeric Saint-Cyr Labbé. Le groupe Mon doux seigneur est l'une des dernières révélations probantes de notre scène locale. Son premier album homonyme, lancé à la fin de l'été, contient les germes d'une recette folk-rock bien relevée. À ses côtés, pour ce programme double, Laura Babin présentera ses compositions rock atmosphériques très inspirées. Et ces deux personnes que j'apprécie vraiment beaucoup, Laura Babin et Mon doux seigneur, c'est très bon si vous voulez découvrir leur musique. Peut-être que la semaine prochaine, je vous ferai des suggestions côté théâtre et aussi côté cinéma. Allez voir ce qui sort cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés du Québec ici.
Merci beaucoup, Catherine. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Merci, chère collaboratrice. Merci, Francine.
Ça me fait plaisir, Hélène.
Merci, Catherine.
Merci, Hélène.
Merci, Mathieu.
Bienvenue.
Et voilà, donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que tout le monde va bien se porter. Je sais qu'on attend beaucoup de neige ce dimanche, je crois, c'est ce dimanche. Et voilà, les feux d'artifice sont partis. Huguette sera là avec nous. C'est notre belle plante. On va la réinviter.
C'est notre porte-bonheur.
Alors voilà, portez-vous bien, tout le monde, et au plaisir de vous savoir à l'écoute vendredi prochain. Merci.